Jean-Marie Aversinck, on se retrouve dans une deuxième partie pour continuer les explications que vous aviez entamées lors de la première. Et notre, alors, j'aimerais revenir sur cette histoire de gravier, parce que je suis sûr que ça intrigue pas mal de gens et qu'ils comprennent pas forcément ce que vous voulez dire.
Écoutez, j'ai expliqué que, en fait, ces crues torrentielles, nous devons avoir une action forte pour lutter contre les vitesses. Et donc, les rivières doivent rouler du gravier pour perdre de l'énergie. Alors, c'est ce qu'on appelle généralement, dans des termes techniques, les atterrissements. Vous savez, c'est ces monticules de gravier que l'on peut voir dans des rivières.
Qui se sont faits naturellement.
Qui se sont faits naturellement, effectivement. Et on voit souvent ces petits monticules de gravier avec des sols, des peupliers dessus. Et souvent, on nous dit, il faut curer les rivières.
Voilà, j'allais dire, c'était un peu le catéchisme à un moment.
Oui. Il n'y a pas une réunion, il n'y a pas un jour où on me dit mais pourquoi vous curez pas les rivières ? Donc je vais prendre quelques minutes pour expliquer cela. En fait, ces monticules de gravier, au-delà de l'utilité qu'ils ont dans une vocation épuratrice de l'eau, de biodiversité, mais ça je le laisse volontairement de côté. Ces monticules de gravier jouent un rôle prégnant dans la dissipation latéralement, la dissipation de l'énergie d'un cours d'eau.
C'est-à-dire ça ralentit.
Ça ralentit. La rivière qui roule du gravier va perdre de l'énergie. Alors, ce qu'il faut, c'est, il n'y a pas de solution idéale. Un atterrissement qui ferait un mètre avec des arbres de un mètre de haut n'a aucun impact, on est bien d'accord. Par contre, un atterrissement qui ferait 2-3 mètres de haut sur 20 mètres de large, là, il commence à constituer un frein hydraulique. Et donc, on se doit de traiter ces atterrissements techniquement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On vient couper les arbres qui sont dans ces petits monticules, on les dessouche et on vient ce qu'on appelle scarifier, c'est ni plus ni moins que décompacter.
C'est éparpillé.
Voilà, on décompacte ces graviers et on les éparpille de telle sorte que on maintienne ces graviers mais de façon beaucoup plus lissée dans la rivière et que la rivière puisse les remobiliser lors d'une crue, pour aller les dissiper le long de son cours. Et comme ça, cette énergie qu'elle passe à dissiper du gravier, c'est de l'énergie qu'elle a moins pour venir faire des dégâts.
Oui, voilà, c'est des ralentisseurs, en fait.
C'est exactement ça. On se sert de la nature. Oui. On se sert de la nature, et donc, c'est vrai que il y a 20 ans, il y avait d'autres techniques, et aujourd'hui, on a amélioré la connaissance, on a 20 ans de recul sur la gestion des cours d'eau, sur la prévention, protection contre les inondations, et donc ce sont des techniques nouvelles, ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, qui permettent de mieux appréhender
d'être efficace, voilà. En fait.
En fait, on travaille avec la rivière et non plus contre la rivière.
Oui, justement. Alors, Jean-Marie Aversinck, jadis, ou il n'y a pas si longtemps que ça, la mode, je disais le catéchisme, c'était de creuser les rivières, de creuser les lits. Apparemment, c'est une aberration par rapport à ce que vous savez aujourd'hui.
Mais écoutez, creuser une rivière, effectivement, il y a... La mode, elle date des années d'après-guerre. Hein. Il fallait des matériaux pour assurer la construction. Donc, il y avait des pratiques qui ont été très largement abusives de creuser les rivières pour pouvoir avoir des matériaux.
En fait, c'était pour chercher des matériaux de construction.
Exactement. Donc, on s'est rendu compte que, finalement, ces techniques-là étaient contre-productives, puisque aujourd'hui, on a affaire à des abaissements de lits, et donc les ouvrages peuvent être désolidarisés par ces abaissements de lits. Et donc, aujourd'hui, toute notre stratégie consiste à gérer ce qu'on appelle le transit sédimentaire. Donc, c'est de garder des matériaux dans la rivière, à la fois pour éviter cet enfoncement de lits de rivière, mais surtout permettre aux rivières de perdre cette énergie lorsqu'elles sont en crue.
Voilà. Alors là, on a fait un petit peu le tour des choses essentielles de l'entretien des rivières. On va faire une petite incursion vers la pédagogie, parce que on parle maintenant de culture du risque. Ça veut dire, en bon français, sachons qu'il y a eu des problèmes, que ces problèmes vont revenir à un moment ou à un autre. Il faut le savoir, l'intégrer, ne pas tourner les yeux, en quelque sorte.
Mais écoutez, moi je crois beaucoup à cette culture du risque. Aujourd'hui, on est un département qui accueillons beaucoup de populations, avec un turnover lié à l'accueil des touristes ou de nouvelles populations. Donc on se doit de diffuser, d'inculquer cette culture du risque.
Savoir ce qu'est le territoire vraiment,
exactement.
Avec le pour et le contre.
Oui, tout à fait. Donc cette culture du risque, il faut pouvoir la diffuser auprès de l'ensemble des publics, que ce soit les jeunes publics. Donc nous faisons beaucoup d'interventions dans les écoles et nous formons environ 500 gamins dans du primaire et du secondaire par an, pour qu'ils aient les bons réflexes, les bonnes notions en cas d'inondation.
Oui, vous avez les pédagogues du SMAR, finalement.
Ben, écoutez, on fait le pari de la jeunesse, oui. Finalement. On se dit que les gamins d'aujourd'hui seront les adultes et citoyennes de demain, et donc on se dit qu'en leur donnant, dès le plus jeune âge, les bons réflexes, on fait le pari de l'avenir.
Ça commence par là.
Voilà.
Mais pas seulement.
Mais pas seulement. On travaille également beaucoup avec les élus pour leur donner ces clés de compréhension à la fois de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention contre les inondations, du qui fait quoi aussi en gestion de crise. Parce que être organisé en gestion de crise, c'est assurer une réponse opérationnelle la plus efficace possible. Et puis aussi, nous travaillons à diffuser des bons messages auprès des agriculteurs, des pêcheurs, mais aussi du grand public, parce que, in fine, ce qui compte, c'est que chacun puisse être acteur de sa propre protection. La collectivité va faire beaucoup en gestion de crise, mais il faut, on ne peut pas attendre tout de la collectivité, quelle qu'elle soit. Le SMAR, la commune, l'intercommunalité, le département.
Il y a un comportement à avoir en cas de crise, justement.
Exactement. Il faut que chacun puisse avoir un minimum de culture du risque. Et dans cette culture du risque, c'est d'acquérir les gestes qui sauvent. Finalement, rester informé, respecter les consignes données, ne pas prendre sa voiture.
Oui, par exemple, quoi faire et quoi ne pas faire.
On voit encore trop souvent, et malheureusement encore en 2018, on a vu des décès parce que des gens avaient enfreint des consignes de sécurité, avaient ouvert des barrières et s'étaient engagés dans des voies qui étaient inondées. Et puis, appel à l'aide, appel les pompiers, mettent en danger les pompiers pour pouvoir ensuite les sauver. Donc voilà, on est dans ce constat-là qu'il faut pouvoir acquérir cette culture du risque, et c'est notre responsabilité, mais pas seulement, d'informer et de faire de la pédagogie.
Oui. Alors, les outils, vous avez déjà évoqué, Jean-Marie Aversin, certains des outils, simplement la connaissance scientifique du fonctionnement des rivières, les archives ou les souvenirs, quand vous citiez tout à l'heure les chiffres sur la précipitation et la montée des cours d'eau, ça parle à l'esprit, évidemment. Je crois que vous avez des outils aussi un petit peu plus sophistiqués, y compris avec des observations de satellites.
Oui, alors, on a des observations, je vais vous expliquer. En fait, on s'est rendu compte que pour bien agir, il fallait disposer d'informations. Et l'information, c'est le point de départ d'une action qui soit performante. Donc, on a développé tout un réseau de suivi de nos cours d'eau, en complément avec le réseau de l'État. Et donc, on vient assurer une couverture de nos cours d'eau en mettant en place des capteurs qui nous permettent d'avoir en temps réel l'état de nos cours d'eau, que ce soit pour le trop d'eau comme pour le pas assez d'eau. Et donc cette connaissance-là, c'est ce qu'on appelle l'outil Shiva, c'est le système de suivi hydrométrique des vallées de l'Aude et des affluents, qui nous permet d'avoir une information en temps réel sur l'état de nos cours d'eau corrélé à la pluviométrie en temps réel.
Oui, oui, voilà. Donc c'est un outil supplémentaire, mais
d'aide à la décision qui
permet de prévision.
Les mots ont un sens, hein, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de la prévision, pas encore.
Ou à très court terme, alors.
Ces capteurs-là permettent de mieux connaître l'état de nos cours d'eau et de porter cette information à destination des autorités de gestion de crise, notamment le préfet, pour prendre les bonnes décisions.
Mais alors ça sous-entend, Jean-Marie Aversin, qu'il y a en permanence quelqu'un au SMAR qui a l'œil là-dessus.
Oui, effectivement, nous sommes dotés d'une astreinte, comme nombre d'autres services, donc d'une astreinte 365 jours par an, 24 heures sur 24, qui permet à la fois d'avoir une veille sur ce suivi hydrométrique des cours d'eau, mais également d'être en capacité d'assurer des reconnaissances de terrain si besoin pour aller confirmer ou infirmer tel point de débordement et surtout amener une expertise de terrain à destination des autorités de gestion de crise.
Alors on va entamer maintenant un chapitre concret également qui est quoi faire et surtout quoi faire pour prévoir, c'est-à-dire avoir des projets. Alors il y a un certain nombre de retenues d'eau, de barrages qui existent aujourd'hui, mais il y en a qui sont en projet également. Et certains deviennent vite polémiques aussi, il faut le reconnaître, puisque le SMAR travaille vers des populations, vers des hommes. Je voudrais que vous nous disiez un mot, Jean-Marie Aversin, du projet alors de barrage écréteur de Montredon des Corbières, hein, pas le Montredon de Carcassonne, qui est à la fois voulu par le SMAR, voulu par un certain nombre d'élus, par les responsables du Grand Narbonne, mais contesté aussi par d'autres.
Oui, écoutez, je crois que vous faites plutôt référence au projet du REC de Véret. Et je ne voudrais pas que l'on réduise finalement le projet du REC de Véret au seul barrage écréteur de Montredon. Moi, si vous me permettez, quelques points sur ce sujet, sur ce dossier. En fait, de quoi parle-t-on? Nous parlons de 8500 personnes habitants à Montredon, habitants à Narbonne, 8500 personnes.
Concernés par...
Voilà. Donc, c'est pas rien. C'est 8500 personnes, 200 entreprises, qui sont soumises à un risque d'une crue torrentielle du REC de Véret, d'une occurrence centennale. Et c'est ni plus ni moins que environ 300 mm qui pourraient tomber sur ce secteur en 24 heures. Je rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 2018, 350 mm en 10 heures.
Oui. Donc c'est pas une vue de l'esprit.
Exactement, c'est pas quelque chose d'improbable. Donc on se doit de réfléchir à quelle réponse opérationnelle on doit amener à ce problème-là. Donc nous avons étudié une quarantaine d'hypothèses pour trouver la meilleure des combinaisons à cette problématique-là. Et cette combinaison, elle repose sur l'obligation décrétée de stocker en amont l'eau du REC de Véret, parce que nous sommes contraints par l'aval, donc la capacité d'écoulement dans Narbonne. Donc ce projet, effectivement, il repose sur trois ouvrages.
Oui. Alors on va y revenir, on va marquer une pause, Jean-Marie Aversin, mais on va y revenir parce que je crois que ça mérite aussi des explications pour lesquelles on prend son temps. On marque une seconde pause.